Ce soir, nous recevons donc M. Sami Nahir. M. Sami Nahir est docteur d'État ès lettres. Il est politologue et philosophe. Il a un parcours long, je vous dirai la fin de son parcours. De 1997 à 1998, il a été conseiller du ministre de l'Intérieur pour les questions d'intégration et de co-développement. Il a été nommé ensuite par le Premier ministre Lionel Jospin, délégué interministériel au co-développement et aux migrations internationales. En 1999, il a dirigé la liste des socialistes aux côtés de François Hollande aux élections européennes. Il a été élu député européen, donc en juin 1999. Il a enseigné dans de nombreuses universités étrangères en Europe, en Amérique latine et au Maghreb. Il est actuellement professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8. Ses spécialités sont les rapports Nord-Sud et toutes les questions sociales. Ses publications sont nombreuses, je citerai les deux dernières. Politique de civilisation, Arléa 1997 en collaboration avec Edgar Morin et une contribution à une collection qui marche très bien. L'immigration expliquée à ma fille au seuil 1999. Monsieur Sami Nahir, je vous laisse la parole.
Merci. 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 Écoutez, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous ce soir. Ce n'est pas une formule rituelle. Je suis vraiment très content d'être ici parce que je trouve que cette université marche bien. Et je souhaite que ce genre d'initiative non seulement se reproduise, mais s'élargisse. Donc merci pour votre invitation. Et je vais essayer de relever le défi qui est celui auquel vous soumettez apparemment tous les soirs les gens qui viennent vous voir, c'est-à-dire essayer de vous parler d'un sujet compliqué de façon simple, sans simplifier la complexité. Je vais essayer donc de traiter avec vous de cette question qui est aujourd'hui d'actualité. Demain et après-demain s'ouvre à Marseille la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de la Méditerranée, de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, et de cette réunion devrait sortir un certain nombre de principes, une déclaration, et en même temps, la question de la Méditerranée devient chaque jour, évidemment, plus importante, plus dramatique aussi, parce que vous n'êtes pas, évidemment, sans savoir ce qui se passe au Moyen-Orient et les interrogations que cela pose aux uns aux autres. Pour ce qui me concerne, je vais essayer de traiter de cette question de la Méditerranée à travers, au fond, un angle qui est celui de sa construction pratique et non pas celui de la représentation que l'on peut avoir de la Méditerranée ou même de la nécessité, très en vogue aujourd'hui dans les pays du sud de la Méditerranée et aussi dans les pays du nord de la Méditerranée. Marseille, par exemple, en Espagne, en Italie, il y a un très fort élan méditerranéen et on parle de la Méditerranée en parlant d'une ère culturelle commune, de l'olive, enfin bref, de tout ce monde de sentiments, de plaisir, de gaieté, de joie, mais aussi, bien sûr, de drame. C'est pas sous cet angle-là que, pour ma part, je souhaiterais aborder ce problème aujourd'hui. Je vais le faire, malheureusement, en m'inspirant beaucoup plus de Cassandre que d'Hermès, c'est-à-dire que je vais essayer de vous parler de la réalité. La Méditerranée est une zone fracturée. C'est sans doute la zone de fracture la plus importante de la planète aujourd'hui. Et le problème de la Méditerranée se pose dans un double contexte aujourd'hui. D'abord, dans celui de ce que, dans le contexte que l'on appelle la mondialisation économique et la mondialisation libérale, qui a pour conséquence de réduire, sinon de détruire, mais en tout cas de réduire, les fragiles acquis que les pays de la rive sud de la Méditerranée ont réussi à obtenir depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième aspect, qui nous concerne très directement, et qui est celui de la construction européenne. La construction européenne a eu des effets extrêmement complexes, très douloureux pour les pays du sud de la Méditerranée, et elle n'a pas fini d'engendrer ces effets, notamment parce qu'elle a substitué, et c'est l'axe central de toute réflexion sur les rapports de l'Union européenne avec les pays du sud de la Méditerranée, notamment parce qu'elle a tendanciellement substitué des relations multilatérales entre les divers pays des deux rives de la Méditerranée à un système de relations de plus en plus bilatéral opposant ou plus exactement confrontant, une Union européenne de 15, 16 États unis et une variété de pays, 16 pays en face, divisés. C'est dans ce contexte que se pose, dans le contexte, disons, géopolitique et historique, que se pose la question de la Méditerranée aujourd'hui. L'exacerbation de la concurrence économique mondiale, conjuguée par conséquent au relatif désintéressement européen, font de la région méditerranéenne, je le répète, une des zones de fracture les plus importantes de la planète. Je traiterai de ces fractures dans un premier temps, ensuite de l'attitude de l'Europe, et puis enfin de ce que l'on peut faire dans l'avenir pour essayer de répondre aux conflits et aux défis que soulève l'espace méditerranéen. Parmi les contradictions, je ne dis pas antagonisme, je dis contradiction, la plus importante aujourd'hui entre les deux rives de la Méditerranée, indépendamment des connotations qu'on peut lui donner, de l'utilisation qui peut en être faite, notamment dans le domaine politique, de l'utilisation souvent démagogique et anxiophobe, c'est la contradiction démographique. La Méditerranée est sans doute aujourd'hui, à l'échelle de la planète, une des zones où la contradiction démographique entre les deux rives est la plus importante. En gros, il n'est pas possible aujourd'hui de mesurer les effets à long terme de cette contradiction démographique. Mais en gros, on peut dire que la croissance démographique de la première partie, la croissance démographique de la deuxième partie du XXe siècle, celle qui a commencé à se développer après la Seconde Guerre mondiale, et dont d'ailleurs les luttes de libération nationale des pays du sud de la Méditerranée n'ont été d'une certaine façon qu'une expression aussi. Cette croissance démographique est en train aujourd'hui de produire tous ses effets dans ces sociétés. Certes, la transition démographique est amorcée, et même, pour un certain nombre de pays du Sud, bien amorcée. Mais, de quelque manière que l'on aborde la question ou que l'on tourne le problème, le résultat est le même. Ces sociétés vont continuer de croître très fortement pendant les 25 prochaines années. Les projections démographiques d'ici à 2025 pour certains pays de la rive sud sont éloquentes. Si vous prenez l'Algérie, par exemple, voilà un pays qui, en 1962, au moment où il accède à une indépendance chèrement acquise, avait à peu près 8 à 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 1998, l'Algérie a 29 millions d'habitants. Et la projection pour 2025 est un accroissement de 36%. La projection pour 2025 est de 50 millions d'habitants, dont 36% de moins de 15 ans. L'Égypte, 61 millions en 1998, 98 millions en 2025, c'est-à-dire 38% d'accroissement. La Syrie, 15 millions en 1998, 33 millions en 2025, c'est-à-dire 45% de moins de 15 ans. La Palestine, 3 millions en 1998, 7,4 millions en 2025. Taux d'accroissement énorme avec 47% de moins de 15 ans. Le Maroc, 28 millions aujourd'hui, 39 millions en 2025. La Turquie, 63 millions, 85 millions en 2025, avec une population de 31% de moins de 15 ans. Ces chiffres ne sont pas donnés pour effrayer, mais ils mettent simplement en évidence une réalité absolument incontournable pour l'ensemble des peuples qui environnent la Méditerranée, c'est que quelque système économico-social que ce soit, quelque merveilleux système économico-social que ce soit, aura, au sud de la Méditerranée, des difficultés à intégrer une population aussi importante. Avec les conséquences que cela peut signifier pour le nord de la Méditerranée, car face à cet extraordinaire dynamisme démographique, qui n'a d'ailleurs en soi rien d'exceptionnel. On pourra en parler tout à l'heure dans la discussion si vous le souhaitez. C'est un rythme démographique parfaitement normal si on étudie, disons, les tendances longues de la démographie. Ce sont des sociétés qui ont perdu leur capacité démographique pendant des siècles et qui sont en train de les rattraper. De la même façon que nous, en France, à partir du XVIIIe siècle, la France s'est mise à rattraper son retard démographique sur un certain nombre de pays pour devenir le principal pays en Europe au XIXe siècle. Et ces pays de la rive sud sont donc aujourd'hui dans cette situation. Face à cela, il est inutile d'insister sur le fait qu'au nord de la Méditerranée, la population subit une évolution absolument contraire. Le dernier rapport de l'ONU indique que si le taux de fécondité actuel reste stable en Europe, la population du continent européen devrait diminuer de près de 30 millions de personnes d'ici à 2025. Le prochain siècle verra donc, face à une rive nord vieillissante et en déclin, essentiellement d'ailleurs l'Espagne et l'Italie, une rive sud jeune, à l'apogée de sa croissance démographique et donc dynamique. Ce basculement démographique, et c'est ça le problème auquel sont confrontés à la fois les pays du Sud, mais aussi aujourd'hui la communauté européenne, c'est que ce basculement démographique, car il s'agit d'un vrai basculement démographique, se réalise dans un contexte d'aggravation des inégalités économiques entre les deux rives. Jamais les inégalités économiques entre les deux rives n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui. Les années de libéralisation des économies du Sud, c'est-à-dire depuis 1985 à aujourd'hui, loin de favoriser, comme on le prétendait dans les années 80, la réduction de ces inégalités, les ont, au contraire, radicalisées. En 1998, le produit intérieur brut par habitant reste, dans les pays méditerranéens, entre 20 et 38 fois inférieur à celui des pays européens. C'est-à-dire qu'un Égyptien ou un Algérien, tendance moyenne, si je puis dire, est 20 à 38 fois plus pauvre qu'un Européen. La dépendance commerciale de la rive sud stagne ou même s'accentue. En 1998, l'essentiel du commerce extérieur des pays de la rive sud s'effectue avec l'Union européenne. Je donne quelques chiffres. Ils sont très éloquents. 53% pour le Liban, 56% pour le Maroc, 60% pour l'Algérie, 75% pour la Tunisie. Et parallèlement, la part des pays méditerranéens dans le commerce extérieur de l'Union européenne, elle, en revanche, diminue, 5,9% en 1998 contre 6,1% en 1997. C'est-à-dire un mouvement absolument contraire. Dans cette situation d'accroissement des inégalités économiques, de forte présence, dirais-je, démographique, mais aussi il y a un aspect auquel les économistes, les sociologues, les politologues, et les politiques y pensent, mais auquel les spécialistes ne pensent jamais, curieusement. C'est, si je puis dire, l'organisation spatiale des sociétés du Sud. Vous devez vous imaginer qu'il s'agit de sociétés qui ont un espace vital de vie centré essentiellement autour de la Méditerranée, avec des déserts profonds, incapables par conséquent d'assurer des projections pour les populations si celles-ci voulaient se projeter à l'intérieur du territoire. Si vous prenez le Maroc ou l'Algérie, la seule solution pour les campagnards ou pour les paysans placés dans une situation de misère, c'est de descendre vers la mer, ce n'est pas d'aller vers le désert. Et ceci est valable pour l'Égypte. Regardez le Nil. Et voyez cette mince bande. Tout se configure autour de cette mince bande. Donc une situation économique mauvaise, un accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud, une présence démographique évidemment importante. Plusieurs conséquences. La première et la plus importante, instabilité systémique, si je puis dire, de l'ensemble des systèmes politiques. C'est-à-dire que du Maroc à la Turquie, vous avez affaire à des formations sociales, à des systèmes sociaux globaux fondamentalement instables, traversés par des dynamismes et des potentialités de crise absolument fantastiques. Vous avez aussi, par le jeu de l'organisation des rapports sociaux dans ces différentes sociétés, des processus de dualisation qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous avez de minces couches de la population intégrées dans le système du travail, dans le système de la production, lorsqu'elle existe, et vous avez ce que l'on pourrait appeler un autre peuple, en dehors de ce système de production, et qui, en quelque sorte, survit à la frontière de l'intégration sociale, à la frontière de l'intégration sociétale, qui se constitue très souvent sa propre idéologie, sa propre vision du monde, son propre système communautaire, et qui s'oppose terme à terme au peuple intégré, à ceux qui sont à l'intérieur, si je puis dire, du système. Le cas le plus éloquent, c'est évidemment le Caire. Au Caire, vous avez, si vous vous êtes promené au Caire, vous vous souvenez sans doute de ce que vous avez une population qui grouille, etc., qui est intégrée. Puis quand vous allez au cimetière d'Al-Karrafa, là, vous avez 2 millions de gens qui vivent dans le cimetière d'Al-Karrafa et qui naissent dans le cimetière, qui grandissent dans le cimetière et qui meurent dans le cimetière et qui ont leur maison dans le cimetière, qui ont leur atelier. Vous avez par conséquent des processus de dualisation qui ne sont en rien comparables aux processus de dualisation que nous connaissons dans nos sociétés et qui font que, quelque système politique que ce soit, il est extrêmement difficile d'accéder à la stabilité. D'où les conséquences immédiates, évidemment. Il n'est pas possible de concevoir que dans ces sociétés, les processus notamment de démocratisation des systèmes politiques puissent de quelque façon obéir aux mêmes normes, aux mêmes règles que ces processus que nous connaissons dans les pays développés. Car la menace sociale, la menace de l'exclusion sociale est tellement importante, elle fait peser, si je puis dire, son poids de telle façon sur les élites plus ou moins intégrées, sur les couches intégrées, que celles-ci y regardent à deux fois avant de démocratiser leur société. Et ceci est valable, je le répète, du Maroc à la Turquie. Même lorsqu'il y a des systèmes politiques qui sont plus démocratiques que d'autres, des systèmes politiques à multipartisme, etc. Au Maroc, aujourd'hui, nous avons affaire à un système pluripartiste, démocratique, il y a une expérience fantastique de démocratisation de ce pays. Les élites démocratiques, etc., quand elles font des mobilisations, elles mobilisent quelques dizaines de milliers de personnes. Les islamistes qui sont de l'autre côté de la société, qui sont du côté du peuple exclu, c'est par centaines de milliers de personnes qui les font descendre dans la rue. Donc des processus de dualisation qui sont liés à une situation économique extrêmement grave dans tous les pays du sud de la Méditerranée. La conséquence directe pour nous, au-delà naturellement de l'analyse proprement systémique de ces sociétés, c'est une conséquence que nous voyons à l'ONU, la demande migratoire. Évidemment, aujourd'hui, la demande migratoire est la question fondamentale qui est posée par le sud de la Méditerranée, au nord de la Méditerranée. C'est la question, c'est la grande question du début du siècle, comme elle a été d'ailleurs la question de ces 20 dernières années. Insuffisance de la croissance économique conjuguée par conséquent à la montée d'une population jeune, sans débouché, contribue à créer une très forte demande migratoire tournée vers l'Europe. Cette demande, elle est déjà sensible en dépit du verrouillage des frontières de l'Union européenne depuis 1974. On assiste partout à l'augmentation des migrations régulières, c'est-à-dire légales. Et lorsqu'un pays du Nord ouvre ses frontières, il y a un flux migratoire extrêmement important qui s'y développe. L'augmentation des migrations dites clandestines, illégales, est importante pratiquement partout dans les pays européens. Pas un seul pays n'échappe à cela. Les ministères de l'Intérieur des différents pays ont des chiffres qu'ils ne publient pas, mais on sait que cette présence, disons illégale, est très importante dans tous les pays de l'Europe. Elle sert d'ailleurs très souvent, dans un pays comme l'Espagne aujourd'hui, elle sert d'ailleurs très souvent à faire fonctionner de manière très compétitive le système informel de l'économie, ce que les Espagnols appellent la economía sumergida, l'économie submergée. Et cette augmentation des migrations clandestines n'a pas cessé, en réalité, depuis 1974. Je pourrais, plus tard, si cela vous intéresse, vous expliquer pourquoi elle n'a pas cessé. À mon avis, c'est une conséquence nécessaire des lois qui ont été mises en place. Mais enfin, c'est une autre affaire. Et puis, il y a aussi, de plus en plus, une augmentation des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau sur le plan historique également. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les demandeurs d'asile et les réfugiés étaient essentiellement des demandeurs d'asile et réfugiés pour raisons politiques. Nous assistons aujourd'hui à la transformation du concept de demandeurs d'asile et de réfugiés. Ce sont de plus en plus des demandes d'asile économiques. Et ce sont de plus en plus des réfugiés économiques qui demandent tout simplement à être nourris, c'est-à-dire qui demandent la solidarité humaine élémentaire. Chez moi, je meurs de faim, si vous me renvoyez, je mourrai de faim. Donc, il faut m'accepter. Face à cette demande, on pouvait penser, et on pourrait penser, que l'Union européenne essaie de, apporter une réponse significative. Je suis au regret de dire que l'Union européenne a une attitude défensive, sinon même timorée, face à cette situation. Les politiques migratoires qui existent aujourd'hui en Europe sont essentiellement instrumentales, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur l'évolution du marché du travail en Europe et sur ses besoins immédiats. On fait venir quand on en a besoin, on jette quand on n'en a plus besoin. Pourtant, j'ai cité tout à l'heure le rapport de l'ONU. Selon ce rapport, la situation est alarmante. En mesurant le vieillissement des populations au Nord et les besoins de main-d'œuvre qui sont liés à la poursuite de la croissance actuelle, l'ONU préconise, sans plus de considération, un appel massif à l'immigration des dizaines de millions d'immigrés, dit l'ONU, si l'on veut maintenir le rythme de croissance actuel dans les 10 prochaines années. Mais l'on sait, et c'est là que l'affaire, si je puis dire, se corse, mais l'on sait que ce n'est pas aussi simple. Car l'immigration, ce n'est pas simplement des forces de travail, une force de travail que l'on fait venir, qu'on utilise et puis qu'on jette. L'immigration, c'est un fait social total, au sens où Marcel Mauss parlait de fait social total. C'est-à-dire que l'ensemble des déterminations du système social agissent dans ce sujet qui est constitué par l'immigré à un moment donné. L'immigration pose bien sûr le problème de l'intégration sociale pour des travailleurs en général, auxquels sont réservées les conditions de travail, de salaire, de logement et de vie les plus difficiles. Ceux qui ont mon âge se souviennent sans doute des bidonvilles des années 50 et 60, Nanterre. Aujourd'hui, ce sont les cités, n'est-ce pas ? Mais elles ne sont pas fondamentalement différentes de ce qu'étaient les bidonvilles, même si elles ont plus de confort. L'immigration pose aussi, il ne faut pas le cacher, car en général, on le paye très cher sur le plan politique, il faut donc le dire, mettre ce problème sur la table et en parler, l'immigration met aussi en œuvre la question identitaire, le surgissement des problèmes de l'identité lorsque la société d'accueil a l'impression, je dis bien a l'impression, et surtout lorsque cette impression est en quelque sorte ressassée tous les jours par les médias et par les partis politiques lorsque la société d'accueil a l'impression qu'elle subit des transformations identitaires traumatisantes, qu'elle subit des transformations qui touchent à son identité profonde. C'est un problème réel et c'est de l'avoir sous-estimé qu'en France, on s'est trouvé confronté pendant presque 20 ans, à des forces politiques qui, elles, utilisaient cela pour des raisons différentes. C'est aussi, et nous sommes aujourd'hui en France confrontés à cette question, je ne dis pas un problème, mais c'est une question. L'Europe est également confrontée à cette question, c'est un grand événement historique que nous sommes en train de vivre là sur ce problème. C'est aussi la présence dans le pays d'accueil, dans l'Europe, de cultures et de religions nouvelles. Et aujourd'hui, on peut considérer que, pour la première fois au fond depuis le Moyen-Âge, eh bien, l'islam est devenu une réalité dans l'Europe chrétienne. L'Europe chrétienne s'est construite par opposition à l'islam au Moyen-Âge, en tout cas par différenciation tranchante. Aujourd'hui, elle se trouve dans une situation où l'islam devient un élément constituant des religions dominantes en Europe, et cela ne va pas, évidemment, cesser, ça ne peut que se développer. Les conséquences de ce développement peuvent être extraordinaires pour le monde musulman lui-même, parce que cela peut être, au contact de l'Europe, l'occasion pour l'islam européen de créer des possibilités de modernisation et de laïcisation pour l'ensemble des mouvements religieux et islamiques dans le monde arabo-musulman ou dans le monde musulman de manière plus générale. Et il y a une très forte attente, d'ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, sur le fait de savoir ce que vont donner ces musulmans de l'Europe. Est-ce qu'ils vont créer un islam de type différent? C'est une réalité historique absolument nouvelle, dont il faut prendre toute la mesure, dont on ne prend pas simplement la mesure parce qu'on est confronté au problème de la construction des mosquées, etc., etc., dont il faut prendre la mesure dans le regard, dans l'auto-image que la société d'accueil a d'elle-même. C'est-à-dire dans le fait que lorsque on voit X ou Y occuper une position mais n'ayant pas un nom chrétien, on le considère quand même comme français, comme espagnol, comme italien ou comme anglais. De la même façon qu'on considère aujourd'hui un grec ou un italien comme français dès lors qu'il parle français et qu'il occupe une position statutaire dans cette société. C'est donc là quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement important qui est en train de se mettre en place. Et enfin, l'immigration a des conséquences également extrêmement, alors là, négative pour les pays de départ. C'est une thèse que l'on développe peu souvent, mais qui est tout à fait essentielle. Elle a des effets déstructurants, en général, sur les pays de départ, surtout lorsque ces départs sont anarchiques, parce que, comme vous le savez, ce sont, en général, toujours les éléments les plus dynamiques qui émigrent. Et aujourd'hui, nous assistons à un mouvement inquiétant au sud de la Méditerranée, très inquiétant, à mon avis, c'est que de plus en plus, cette immigration n'est pas une immigration de gens sans qualification, de paysans, sauf peut-être pour le cas du Maroc, qui se trouve dans une situation difficile aujourd'hui, en raison de la crise de son agriculture, mais ce sont de plus en plus des gens qualifiés, des gens très compétitifs sur le marché du travail, des médecins, des techniciens, des avocats, des gens qui connaissent remarquablement bien la culture européenne, qui ont été formés en général dans des universités à partir de la culture européenne et qui sont extrêmement compétitifs lorsqu'on les met dans des situations de compétition parce qu'ils acceptent à la fois des conditions de salaire qui ne sont pas les mêmes et en même temps ils produisent et ils peuvent effectivement faire la différence lorsque celle-ci est nécessaire. Or, le départ de ces couches-là, c'est purement et simplement la moelle épinière des pays de départ qui s'en va, car l'on sait qu'il ne peut pas y avoir de modernisation s'il n'y a pas de couches intermédiaires qui vertèbrent les sociétés, quelques sociétés que ce soit. Dans l'ensemble, ce que l'on peut dire sur cette question si complexe de l'immigration, c'est que les politiques classiques d'immigration sont en fait loin de prendre en compte la complexité de tous ces problèmes. Je plaide depuis longtemps pour que on repense entièrement la question des migrations et qu'on s'oriente vers une nouvelle politique, mais je puis vous garantir que ce n'est pas facile. Et puis, il y a enfin, au niveau des contradictions, la situation, évidemment, politique. Je n'insisterai pas là-dessus, vous la connaissez. La situation, aujourd'hui, en Méditerranée, est dramatique. Elle est dramatique parce que la Méditerranée semble dépendre de ce qui se passe au Moyen-Orient et elle surdétermine d'une certaine façon toutes les relations entre le nord et le sud de la Méditerranée. Le conflit israélo-arabe est devenu un conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire ce qu'il était à l'origine. Aujourd'hui, la question est très simple. Ou les droits du peuple palestinien sont reconnus, et par conséquent, il y a la paix, ou les droits du peuple palestinien ne sont pas reconnus, et il y aura la guerre. Et il y aura la guerre pour l'avenir, elle peut durer 100 ans, mais malheureusement, on ne voit pas quelle autre solution. Il ne peut pas y avoir de compromis sur cette question, de la même façon qu'il n'a pas pu, qu'il ne peut pas, et qu'il ne pourra pas y avoir de compromis sur la sécurité et l'existence de l'État d'Israël. Il faut se rendre à cette évidence, et malheureusement, c'est extrêmement difficile. Mais derrière cela, il y a des conflits beaucoup plus importants. Derrière cela, en Méditerranée, et ce seront sans doute les conflits des 20 prochaines années. Des conflits se nouent autour des problèmes de répartition d'eau dans tous les pays de la Méditerranée, et particulièrement au Moyen-Orient. Le contentieux israélo-palestinien, par exemple, pour le contrôle du Jourdain, c'est un thème tout à fait essentiel. Il y a également un contentieux israélo-syrien pour les ressources du Golan. C'est la raison pour laquelle les Israéliens ne veulent pas restituer le Golan qu'ils ont colonisé. Il y a un conflit iraco-syro-turc qui concerne les eaux de l'Euphrate et qui a failli, il y a 2 ans, engendrer une guerre entre la Syrie et la Turquie. Ce sont donc des situations conflictuelles potentielles qui peuvent exploser à n'importe quel moment en Méditerranée. Et puis, vous le savez aussi, le Moyen-Orient est une zone stratégique pour la sécurité énergétique de l'Occident. 60% des réserves mondiales de pétrole y sont présentes. Et la région est au centre d'un affrontement très dur pour le contrôle de ses ressources. De cet affrontement découlent toutes les injustices qui, souvent, n'est-ce pas, annulent les effets du développement. Je viens de parler de la situation du peuple palestinien, mais il faut aussi parler de l'injustice faite au peuple irakien. Je ne parle pas des gouvernants irakiens qui méritent le sort qu'ils ont. Je parle de l'injustice qui est faite au peuple irakien sous embargo depuis 10 ans, ce qui, soit dit en passant, a permis aux États-Unis de contrôler le prix du pétrole ces 10 dernières années. D'autres conflits, moins immédiatement dramatiques, pèsent également sur le développement pacifique de la Méditerranée. Je pense au conflit gréco-turc concernant Chypre. C'est un conflit qui est potentiellement dévastateur également. Nous le voyons tous les jours, nous, au Parlement européen, tous les jours. Je pense à l'instabilité latente en ex-Yougoslavie, à la question non résolue du Sahara occidental. Sur tous ces conflits, sans exception, et c'est ça qui est important, sur tous ces conflits, sans exception, et c'est la conséquence que je voulais tirer de cela, sur tous ces conflits, sans exception, ce sont les États-Unis qui donnent le ton, c'est-à-dire une puissance extra-européenne. L'Europe, dans cette situation, est doublement impuissante. Elle est impuissante en tant qu'unité, en tant qu'entité européenne, et elle est impuissante parce que cette impuissance, parce que cette entité européenne rend encore plus difficile toute politique nationale spécifique. Il y a encore quelques années, la France pouvait prétendre avoir une politique arabe, une politique spécifique dans ces pays. Aujourd'hui, et sans que la PESC, représentée par M. Solana, n'ait encore acquis véritablement droit de cité dans les relations internationales, il n'est possible à aucun chef d'État européen de prendre des positions en flèche sur tel ou tel sujet au niveau méditerranéen, parce qu'il y a l'Union européenne. Comme l'Union européenne est elle-même impuissante, le résultat, c'est évidemment une impuissance généralisée, c'est-à-dire une impuissance s'accroît à une autre impuissance et nous sommes dans une situation difficile. On peut rentrer dans le détail. La France est le seul pays qui essaie d'avancer parfois quelques pions, mais elle trouve en face d'elle de puissants adversaires, y compris parmi ses alliés au niveau de l'Union européenne, de très puissants adversaires. L'Angleterre, l'Allemagne ne veulent pas que la France joue un rôle autonome en Méditerranée, et par conséquent, si la France s'engageait dans une politique spécifique, elle aurait évidemment à en rendre compte. C'est une véritable réalité. La conclusion qu'il faut en tirer, ce n'est pas qu'il ne faut pas un espace, ce n'est pas qu'il ne faut pas un ensemble européen. Moi, la conclusion que j'en tire est tout à fait différente. C'est qu'il faut parvenir à un ensemble européen doté d'une véritable politique extérieure, doté d'une véritable politique de sécurité et de défense pour pouvoir faire entendre sa voix autrement que par la participation de Javier Solana dans les réunions organisées par les États-Unis, Israël et l'Égypte, pour montrer simplement le drapeau européen et passer à la caisse quand il le faut, mais sans aucune capacité d'agir sur le fond. Face à ça, me diriez-vous, que fait l'Europe? Eh bien, face à cette situation, l'Europe, je dirais, n'a pas de stratégie en Méditerranée. Ou plus exactement, elle a un suivi qui est lié à, finalement, des politiques pragmatiques mises en place. L'Europe, je l'ai dit, s'est construite en tournant le dos à la Méditerranée, en défaisant les liens privilégiés qui unissaient certains pays, notamment la France, avec d'autres pays de la rive sud. La construction du marché commun, 1957, ouvre un choix historique, qui est le choix de la construction européenne vers le nord. L'intégration de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce en 1985 auront notamment pour conséquence la marginalisation des économies méditerranéennes et tout particulièrement de l'économie marocaine. Il n'est pas possible de comprendre les problèmes migratoires que souffre l'Espagne aujourd'hui si on ne tient pas compte des conséquences de l'intégration de l'Espagne dans l'espace rural, dans l'espace agricole européen et des conséquences que cela a pu avoir pour l'agriculture marocaine. Ce n'est pas possible. L'élargissement à l'Europe du Nord en 1995 et enfin aujourd'hui l'ouverture à l'Est sont, je dirais, autant d'étapes dans le détournement progressif de l'Europe à l'égard de la Méditerranée. En 1995, face à cette situation, il y a eu une réaction dont la France a été à l'époque la tête pensante et à la fois le levier. C'était, souvenez-vous, la guerre du Golfe venait à peine de s'achever, l'Union soviétique venait de s'effondrer, le traité de Maastricht venait d'être signé. Bref, tout était assez chaud. La France a proposé que l'on organisât à Barcelone un processus d'association des pays du sud de la Méditerranée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement essayer de vous dire ce qu'il y avait dans ce processus. D'abord, le processus de Barcelone, initié en 1995, avait pour objectif d'instaurer ce que l'on appelait un véritable partenariat global entre les deux rives, fondé sur trois objectifs. Premier objectif, construction d'une zone de paix et de sécurité. Deuxième objectif, construction d'une zone de libre-échange. Troisième objectif, mise en place de relations structurelles, de réseaux entre les sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée. C'était un beau projet. De là devait découler une zone de prospérité partagée. Le plan était simple, 5 années de 1995 à 2000, avec des financements, des accords signés avec les différents pays méditerranéens, et en 2000, on fait le bilan et on avance. On fait le bilan sur les trois secteurs. Aujourd'hui et demain, et quand je dis demain, il s'agit réellement de demain, mercredi et jeudi, demain à Marseille se fera le bilan de cette situation. Car, et c'est ça le grand intérêt de la conférence de Barcelone, n'est-ce pas, de 1995, c'est que pour la première fois, je le dis toujours, sans doute depuis l'Empire romain, mais à l'époque de l'Empire romain, il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait qu'un empereur. Pour la première fois depuis l'Empire romain, si je puis dire, l'ensemble des chefs d'État des pays de la rive sud et nord de la Méditerranée se sont réunis et ont travaillé ensemble, y compris les Israéliens et les Palestiniens. C'était un grand moment de la Méditerranée. Demain, il va falloir faire le bilan. Et le bilan, la Commission vient de le faire, vient de le publier. Je suis moi-même chargé du rapport sur ce bilan. Il est là. Nous avons le texte de la, communication, c'est de la communauté. C'est un texte éloquent et qui s'appelle, dont le titre même est tout un programme, un nouvel élan pour le processus de Barcelone, ce qui signifie très clairement que l'ancien est épuisé. La zone, en réalité, qu'est-ce qui s'est mis en place ces 5 dernières années? Eh bien, ce qui s'est mis en place, c'est tout simplement, d'abord, un début de mise en œuvre de la zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange n'est pas, à proprement parler, une stratégie, parce qu'elle s'inscrit dans la dynamique globale de la libéralisation engagée en Europe, d'abord avec le marché commun, et ensuite avec les négociations du GATT, et enfin, bien sûr, dans le cadre de l'OMC. Autrement dit, qu'on l'ait décidé ou non en 1995, il y aurait eu de toute façon une zone de libre-échange. Donc en soi, ce n'est pas une innovation. La seule libéralisation Et ça, c'est la conséquence, évidemment, qui en résulte. Une zone de libre-échange fondée essentiellement sur la libéralisation des économies dans un contexte qui n'est pas toujours favorable aux pays de l'Europe, aux pays du Sud. Je dirais que cette zone de libre-échange s'est faite dès le début, aux conditions du marché européen. J'en donne un exemple. Ne sont concernés dans le cadre de la zone de libre-échange que les produits industriels dans l'échange entre les deux rives, pour lesquels les pays européens sont très largement compétitifs, beaucoup plus compétitifs que les pays méditerranéens. Et c'est la raison pour laquelle en sont exclus, par conséquent, les produits agricoles. Le seul avantage comparatif des pays du sud de la Méditerranée, c'est l'agriculture, surtout pour le cas du Maroc. Ces produits en sont exclus. Ils n'ont pas le droit d'être commercialisés à l'intérieur de cette zone. On peut dire donc qu'il s'est agi d'une réponse conjoncturelle aux intérêts européens. Je vais vous donner un chiffre que le Conseil économique et social vient de publier la semaine passée, qui est absolument effarant et qui montre très bien, malheureusement, où en est cette situation. Les transferts budgétaires globaux de l'Union européenne vers les pays méditerranéens s'élèvent à 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an. Tous les pays européens transfèrent 1 milliard par an. Ce qui résulte du déficit commercial des pays méditerranéens vis-à-vis de l'Union européenne s'élève à 34 millions d'euros par an. L'effort budgétaire de l'Union européenne vis-à-vis des pays méditerranéens représente donc moins du 30e des avantages que procure à l'Europe la zone de libre-échange. C'est une affaire juteuse. À ces défauts structurels s'ajoutent des dysfonctionnements importants qui sont heureusement consignés dans le texte de la Commission. D'abord, l'Union européenne, jusqu'à maintenant, n'est parvenue à payer qu'un tiers à peine des fonds qui sont initialement prévus pour le partenariat pour la période 1994-1999. Ensuite, les accords d'association signés entre l'Union européenne et les pays méditerranéens sont en réalité des accords bilatéraux entre l'Union européenne, qui pèse du poids de 15 de ses membres, et chaque État méditerranéen pris isolément. Il en résulte des lourdeurs humiliantes et insupportables pour les négociateurs des pays du sud de la Méditerranée. Nous les voyons tous les jours à Bruxelles venir commander des réunions, venir commander des rendez-vous aux directeurs de division, aux directeurs, de programme, pour pouvoir faire avancer la signature de leur accord. Actuellement, 8 accords ont été signés. 4 sont en suspens, avec le Liban, avec l'Égypte, avec la Syrie, avec l'Algérie. Et il faut, en général, 3 ans en moyenne pour qu'un accord d'association soit ratifié par tous les pays européens. Car l'Union européenne ratifie seule ses accords, n'est-ce pas, avec chacun des pays, mais chacun des pays, lui, est obligé de ratifier ses accords avec les 15 pays de l'Union européenne. Ce qui signifie des voyages en perspective dans les diverses capitales européennes. Les désavantages immédiats pour les pays du Sud font aujourd'hui reculer un certain nombre d'entre eux qui commencent à se rétracter, et parmi les plus inattendus. Le Liban, par exemple, vient de déclarer officiellement qu'il hésite à s'engager dans le partenariat, car pour lui, la zone de libre-échange signifie la perte de recettes douanières qui représentent 50% des recettes de l'État, alors que son commerce avec l'Europe ne représente, lui, que 11% de ces mêmes recettes. La Commission a enfin abandonné certains aspects essentiels du partenariat, notamment la coopération décentralisée, mais je n'insisterai pas là-dessus. Les volets politiques et culturels, quant à eux, sont restés jusqu'à maintenant lettre morte. Les programmes MEDA, notamment, ne sont plus financés depuis 1995, alors que la Méditerranée traverse une situation difficile. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, la Commission publie un texte qui devrait donc demain être adopté, amendé, etc., etc., où elle propose un certain nombre de réformes, où elle fait un bilan d'ailleurs très sévère de la situation. Pour la première fois, je lis un texte sévère de la Commission sur sa propre pratique. Mais quand on analyse ce texte, on s'aperçoit qu'au fond, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'on reste sur la ligne de la zone de libre-échange, on reste sur des négociations séparées, on reste fondamentalement sur des projets de court terme, et on ne répondra pas aux problèmes qui se posent. C'est la raison pour laquelle moi je plaide pour que l'on dépasse cette zone de libre-échange. Je plaide pour une grande politique méditerranéenne. Je crois que aujourd'hui, il faut, au-delà de la zone de libre-échange, se poser la question suivante, et se la poser de manière, si je puis dire, radicale. Est-ce que pour l'Europe riche, il s'agit d'accroître les avantages comparatifs immédiats qui sont les siens en supprimant au Sud toute concurrence potentielle, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de poser les fondements d'un véritable marché commun associé entre les deux rives de la Méditerranée de façon à développer le Sud de la Méditerranée comme condition de la stabilité non seulement des pays du Sud, mais aussi de l'Union européenne. C'est une question qu'il faut poser de cette manière parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre façon d'aborder le problème. Dans le premier cas, il faudra continuer à subir les migrations sauvages, il faudra continuer à subir, évidemment, les problèmes auxquels on est confronté. Dans le deuxième cas, eh bien, il faudra prendre en compte les paramètres endogènes des problèmes du développement au Sud. C'est cette deuxième voie que, pour ma part, je souhaite défendre. Je crois qu'il faut aller vers une zone de libre-échange qui soit un premier pas vers un marché commun qui intègre l'ensemble des biens et, bien sûr, les produits agricoles. La Commission le suggère sans le dire ici clairement. Elle fait un certain nombre de propositions. Moi, je suis absolument convaincu que si on n'intègre pas les problèmes agricoles aujourd'hui, l'Espagne, l'Italie et la France auront des problèmes migratoires extrêmement difficiles à traiter dans les 10 prochaines années. Si vous prenez le chiffre de l'augmentation de l'immigration marocaine ces 10 dernières années, vous vous apercevrez que l'augmentation marocaine officiellement est passée de 380 000 à 900 000 pratiquement aujourd'hui, en même pas 10 ans. Et ce n'est que le début, car l'immigration marocaine, contrairement à l'immigration algérienne, est une immigration qui va partout en Europe, et pas simplement en France. Les Algériens ont un rapport particulier avec la France qui font qu'ils viennent uniquement en France, ils n'émigrent pas d'autres pays, parce que, de quelque part, ils considèrent que la France est aussi leur pays. Les Marocains, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'une immigration européenne, il s'agit d'une immigration qui va vers l'Europe. Et je crois par conséquent qu'il faut aujourd'hui véritablement intégrer l'agriculture dans la zone de libre-échange, de sorte, de façon à stabiliser les populations agricoles chez elles. Il faut aussi s'orienter vers une véritable politique d'aide au développement social, notamment par la mise en place de systèmes de sécurité sociale. L'Europe en a déjà mis en place quelques-uns, notamment en Tunisie, mais ce n'est pas suffisant. D'assurance chômage, l'amélioration des systèmes de santé. Quelques projets existent, mais je le répète, ils ne sont pas suffisants. Et puis, il faut aussi réfléchir à ce que peut être une grande politique d'infrastructure. Beaucoup parlent d'un plan Marshall pour le sud de la Méditerranée. Bon, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à un plan Marshall, mais il y a quelques axes infrastructurels qu'il faut aujourd'hui développer, les transports, l'énergie, l'hydraulique essentiellement pour les pays du sud de la Méditerranée. Voilà quels sont des axes qui peuvent permettre à ces pays de se développer. Et de façon plus précise, je crois qu'il faut aussi placer les migrations au cœur du développement. L'Europe doit faire des migrations une question centrale. Je le dis en une formule. Pour moi, la politique de coopération ne doit plus être une politique de coopération fondée sur les transferts d'argent, fondée sur les transferts financiers. Nous savons tous où va cet argent. Et nous savons qu'il ne va pas là où il doit aller. En revanche, il faut mettre au cœur de la coopération la question de la circulation des populations, la question de l'immigration. L'immigration peut être un vecteur fantastique, formidable, de développement des pays d'origine, dès le moment où on a une relation vivante avec l'immigration, une relation pas simplement instrumentale, mais qui tienne compte à la fois de l'intérêt de la société d'accueil et de l'intérêt de la société de départ. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut faire de l'immigration un axe essentiel de la coopération à travers notamment la politique de co-développement, c'est-à-dire une politique qui favorise les investissements que les immigrés font dans leur propre pays. Je parlais il y a un instant de l'immigration marocaine. Savez-vous que les Marocains une petite association marocaine s'est structurée et elle a construit plus de 300 km d'autoroutes dans le sud du Maroc, de routes dans le sud du Maroc. Ils construisent et ils financent des écoles, ils financent des hôpitaux. Ils n'envoient plus l'argent comme ils le faisaient. À la famille, ils l'envoient maintenant à un chef de village qui le répartit sur les besoins du village et sur les besoins de la communauté. Cette immigration s'auto-organise, elle est vivante, elle est créatrice. Elle a un génie propre qui est le génie propre à toute immigration, c'est-à-dire celui de ne pas perdre le contact avec le pays d'origine, au moins en tout cas pour la première génération. La seconde génération, c'est une autre affaire. Eh bien, il faut favoriser cela, non pas dans la perspective du retour de ces gens, car ces gens ne peuvent envoyer de l'argent dans leur pays d'origine que s'ils sont stabilisés dans le pays d'accueil, que s'ils sont intégrés, que s'ils sont respectés, que s'ils ont un statut stable. Sinon, ils ne font pas cela, sinon ils passent leur temps à essayer de fuir les conditions de la clandestinité. Il faut aussi peut-être réfléchir sérieusement à ce que pourrait être une politique de mobilité et de migration temporaire. Je sais que ça pose de gros problèmes, mais moi je suis absolument convaincu qu'il faut aller vers des migrations temporaires. Nous n'avons plus besoin de continuer à avoir cette politique d'immigration qui consiste à dire on donne des résidences permanentes ou on ne donne rien du tout, c'est la clandestinité. Pourquoi ne pas mettre en place des politiques de migration temporaire qui favorisent le va-et-vient et qui, évidemment, n'octroient pas les avantages qui sont conférés à ceux qui sont régulièrement installés. Et il faut, bien sûr, je l'ai dit, favoriser par la création d'instruments financiers, par la création d'instruments d'épargne, tout ce qui peut permettre le développement des pays d'origine, sans parler bien sûr de la nécessité d'une politique d'intégration pour les immigrés régulièrement installés. Pour terminer, je dirais que tout ceci n'est possible que si l'on sort d'une relation strictement instrumentale et économique. La Méditerranée, ce n'est pas un espace mort, c'est un espace vivant, c'est un espace qui est fondé sur un dynamisme. C'est un espace où se constituent des civilisations séculaires, des civilisations qui se sont entrechoquées, mais qui en même temps se sont construites les unes sur les autres, l'entrelacement. Il n'est pas possible de penser la philosophie européenne du Moyen-Âge si l'on ne connaît pas la philosophie arabe ou la philosophie juive du Moyen-Âge. De la même façon qu'il n'est pas possible de penser la philosophie arabe de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, si l'on ne pense pas à la philosophie rationaliste occidentale. Il y a des entrecroisements, il y a des mariages, des divorces, il y a entre ces deux rives une véritable dynamique que les relations en général existantes aujourd'hui tendent malheureusement à cadavériser et non pas à développer. Pour cela, je crois qu'il faut sortir d'une relation strictement économique et il faut aller vers une association des États méditerranéens. Moi, je plaide pour également une association des États méditerranéens dans laquelle ces États peuvent se retrouver pour discuter de leurs problèmes politiques, une association qui serait aussi un instrument de conciliation des conflits et qui permettrait à l'Europe de stabiliser son flanc sud parce que, et je terminerai là-dessus, parce que l'Europe, la situation est très simple, peut-être s'ouvrir à l'est, elle le fera, elle peut se renforcer au nord, mais elle ne pourra pas se développer dans la tranquillité si au sud continue à se développer la misère, la demande d'immigration et les conséquences négatives qui peuvent en résulter. Merci.
Merci.
Oui, monsieur.
Trois questions sans rapport entre elles. Premièrement, je n'ai pas très bien compris concrètement comment l'immigration musulmane en Europe pourrait être un modèle pour leur pays d'origine. Pour moi, il me semble que c'est plutôt le contraire. Et ce que vous suggérez, je l'ai jamais vu. Donc concrètement, je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Deuxièmement, sur la question du conflit israélo-arabe, j'étais étonné que vous placiez les motivations d'Israël pour garder le Golan comme d'abord des intérêts en fonction de ses ressources. Jusque-là, il me semblait que ce que les Israéliens privilégiaient, c'était l'intérêt stratégique, donc le fait que le Golan ne puisse pas bombarder Israël. Mais enfin bon, c'est une question. Et troisièmement, quelle est l'issue que vous voyez à l'embargo sur l'Irak?
Pour ce qui concerne vous avez, monsieur, posé des questions très importantes. Pour ce qui concerne l'immigration musulmane en Europe, dites musulmane en Europe, vous savez, aujourd'hui, on parle d'immigration musulmane. Moi, je me souviens que dans les années 70, Le Pen, qui est devenu célèbre et qui était à l'époque inconnu, parlait de la quatrième colonne du communisme. On considérait que c'est des communistes potentiels. Aujourd'hui, on se dit que ce sont des musulmans. Passons. Cette immigration, oui, elle peut être un modèle pour les pays d'origine, parce que, pour une raison très simple, je ne vais pas développer, puisque nous n'avons pas le temps, mais pour une raison très simple, c'est que pour la première fois de l'histoire, l'islam va se développer en Occident dans un espace où il est minoritaire, où il n'est pas majoritaire. C'est-à-dire dans un espace laïque, où il a face à lui une religion majoritaire qui est le christianisme sous sa version chrétienne, sous sa version catholique ou protestante. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam, n'est-ce pas, où, autrement que par, comment dirais-je, la conquête, l'islam se développe dans un espace qui est un espace où il est minoritaire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il est minoritaire dans un espace qui n'est pas un espace religieux à proprement parler, qui est l'espace laïque. C'est-à-dire un espace qui ne le questionne pas dans le contenu de sa vérité religieuse. Car si l'espace était chrétien, il le questionnerait dans le contenu de sa vérité religieuse. Il pourrait dire, ta vérité religieuse n'est pas la mienne et par conséquent, il faut faire attention. Là, non. C'est un espace laïque, c'est un espace qui le questionne simplement dans sa forme, qui lui dit, il y a des normes et des règles qui sont les règles de la laïcité, il faut s'adapter à ces normes et à ces règles. Et à partir du moment où on s'adapte à ces normes et à ces règles, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de Hegel pour s'apercevoir que toute contradiction, n'est-ce pas, toute négation, toute contradiction est une négation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on s'adapte à cet univers laïque, on change. Et cela peut engendrer incontestablement un islam de type nouveau qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes pour les pays du sud de la Méditerranée qui ne sont pas des pays officiellement laïques, qui sont des pays majoritairement religieux et où la religion joue un rôle extrêmement important, pas simplement d'ailleurs dans le système social, mais aussi dans le système politique. Donc c'est une immense chance historique, si je puis dire, pour l'islam. Sur la question du Golan et d'Israël, je n'entrerai pas dans le détail, vous avez évidemment aussi raison. J'ai simplement souligné la question du Golan parce qu'il y a un problème d'eau entre la Syrie et Israël, et dans les négociations pour le retrait du Golan, cette question d'eau a choper les négociations. Mais il n'y a évidemment pas que cela, il y a aussi le problème stratégique de sécurité. Naturellement, ce que je demande à ceux qui posent cette question, c'est de comprendre aussi que nous sommes dans une situation où la sécurité est inversée. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les Israéliens qui peuvent bombarder n'importe quand la Syrie, puisqu'ils sont sur les hauteurs du Golan. Donc il faut être juste. Il faut démilitariser cette zone et rendre la Syrie aux Syriens parce qu'elle leur appartient. Pour ce qui concerne l'embargo, c'est une question extrêmement compliquée. La Chine, la Russie, la France sont contre cet embargo. L'opinion publique internationale est de plus en plus contre cet embargo. Toutes les analyses qui ont été faites, on sait, moi-même j'ai fait voter une résolution au Parlement européen là-dessus, la situation est dramatique. Il y a plus de 500 000 enfants, selon l'UNICEF, qui meurent des suites de cet embargo chaque année. Jamais dans l'histoire, y compris l'embargo d'Afrique du Sud, jamais on a été confronté à une situation aussi tragique. C'est honteux pour l'humanité. C'est absolument honteux pour l'humanité, sachant que le responsable de cette situation, lui, continue à gouverner comme si de rien n'était. Et que cet embargo a eu pour effet de détruire la population irakienne sans toucher à ceux qui ont placé cette population, système dictatorial, dans la situation dans laquelle on est. Donc, depuis des années, on plaide pour lever l'embargo sur les médicaments, sur la nourriture, sur la santé. Bref, introduire des relations de société à société et maintenir un embargo très fort, bien sûr, sur les armements, sur les déplacements des élites politiques irakiennes, sur tous ces gens-là, maintenir un embargo très dur à leur égard, mais ne pas pénaliser le peuple. Il ne faut pas que le peuple soit pénalisé. Et on sait qu'aujourd'hui, l'embargo fonctionne essentiellement contre le peuple, car les élites irakiennes autour de Saddam Hussein, elles ne manquent de rien, elles ont absolument tout. Eh bien, nous sommes dans une situation où apparemment, ça commence à se déverrouiller. Les pays européens organisent de plus en plus de voyages en direction de l'Irak. Je pense que dans les prochains mois, on peut se trouver dans une situation où l'ONU décrétera, enfin le Conseil de sécurité décrétera l'embargo, à condition naturellement que les Américains le décident. Or, vous le savez, les Américains ne veulent pas décréter l'embargo, et ça c'est ma thèse, moi je l'ai développée, donc il n'y a pas de raison que je la cache ici. Les Américains ne veulent pas lever l'embargo parce que ça leur permet de contrôler le brut irakien. Ils contrôlent le brut irakien, c'est-à-dire le nombre d'érics, de barils de pétrole vendus par les Irakiens, ce qui leur permet de contrôler l'ensemble du prix du pétrole à l'échelle mondiale. Et ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à faire cela. L'Arabie saoudite n'a pas non plus intérêt à voir revenir l'Irak sur le marché du pétrole. L'Iran n'a pas intérêt à voir revenir l'Irak sur le marché du pétrole. Vous imaginez que le prix du pétrole, que le prix de l'essence aurait augmenté comme il a augmenté s'il y avait eu l'Irak dans le marché ? Absolument impossible. L'Irak représente une part extrêmement importante. L'Irak est le troisième producteur de pétrole du monde. Donc, cette situation ne peut pas, me semble-t-il, durer. J'ai bon espoir, et là-dessus la diplomatie française mène un vrai combat, j'ai bon espoir pour que les choses changent.
Oui, il y a une question là-haut.
Oui, ici. Vous avez parlé des pays du sud Méditerranée comme des pays à soutenir par l'Europe. Or, il se trouve que les pays du sud...
Par l'Europe.
L'Europe.
Ah, par l'Europe, pardon.
Or, au sud de ces pays, il y a des pays qui sont les plus riches du monde, ou quasiment les plus riches, ou parmi les plus riches du monde, qui sont importateurs de main-d'œuvre, à savoir tous les pays qui ont une pétro-économie. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes, etc., la Libye, et qui ont une immigration positive de gens qui viennent d'Indonésie, qui viennent des Indes et qui ne viennent pas des pays arabes. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur cet aspect ?
Je ne comprends pas très bien le sens de votre question, ou peut-être je la comprends trop bien. Je vais simplement vous dire ce que je pense de la chose. Si vous voulez dire par là qu'il devrait y avoir une solidarité entre les pays arabes de telle sorte qu'ils puissent et qu'ils doivent accueillir cette immigration, la réponse est évidente. L'immigration qui a été la plus importante en Irak, en Arabie saoudite, dans les Émirats, a été et est toujours aujourd'hui l'immigration égyptienne et l'immigration palestinienne. Donc il y a une très forte immigration, il y a également une immigration marocaine et tunisienne importante dans ces pays. Donc ils contribuent, si je puis dire. En revanche, les problèmes d'immigration ne sont pas des problèmes de solidarité. Les problèmes de l'immigration obéissent à des contraintes géopolitiques et culturelles. Les contraintes géopolitiques, vous savez, les immigrés mexicains, ils n'émigrent pas en Europe. Ils ne construisent pas des pateras pour venir en Europe. Ils vont aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que la géopolitique fait qu'ils sont beaucoup plus proches des États-Unis que de quelques pays européens que ce soit. Par ailleurs, les immigrations, comme d'habitude, suivent toujours le parcours des richesses, le parcours des marchandises. Enfin, l'immigration, je l'ai dit, n'est pas un processus abstrait. On émigre jamais pour aller dans un pays totalement inconnu. Car même si soi-même, on ne connaît pas ce pays, il y a toujours quelqu'un dans le pays que l'on connaît qui a émigré ou qu'un immigré a connu, et qui constitue le point d'arrivée et le vecteur, si je puis dire, non pas d'intégration, mais d'accueil dans le pays où on émigre. Or, pour les pays dont vous parlez, ce sont des pays qui sont à la frontière de l'Asie. Ce sont des pays où il y a une forte immigration indienne, une forte immigration chinoise, une forte immigration philippine, indonésienne, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui partagent en général la même culture, sont des Asiatiques, ils sont musulmans, très très souvent, et ils ont dans les pays des structures familiales d'accueil. Il est beaucoup plus facile lorsqu'on a un cousin ou une famille quelconque dans un pays d'immigrer que lorsqu'on ne connaît personne. processus migratoires aux États-Unis se sont développés de cette manière. De la même façon, ils se sont aussi développés de cette manière en France, avec les Italiens, avec les Polonais, avec les Juifs, avec les Espagnols, avec les Algériens. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et la géopolitique est un élément tout à fait essentiel, par conséquent, dans les processus migratoires. La conséquence pour nous, elle est simple, c'est que l'Europe, et la France en particulier, accueilleront, par définition et par nécessité, les immigrés des pays dans lesquels la France a joué un rôle important, c'est-à-dire tout le bassin africain et le Maghreb. Dans ces pays, on parle français. Dans ces pays, on pense français. Dans ces pays, on est français, quelque part. Ce qui ne signifie pas qu'on n'est pas dans ces pays marocains, tunisiens, algériens, sénégalais ou maliens, non. Mais il y a une co-identité, quelque part, qui fait qu'on considère qu'il y a une proximité et l'on va vers ces pays-là. Ça, c'est une contrainte de l'histoire. C'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple un pays, vous savez quel est le pays qui aujourd'hui accueille le plus d'immigrés à l'échelle européenne ? C'est l'Allemagne. Eh bien, il y a des flux migratoires entre l'Allemagne et la Pologne absolument fantastiques. Vous avez actuellement des migrations temporaires entre l'Allemagne et la Pologne qui se chiffrent par dizaines de milliers de personnes chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu une sorte de symbiose dans cette frontière, n'est-ce pas, entre l'Allemagne et la Pologne. Ce sont des processus quasi naturel, si l'on entend évidemment par processus naturel des processus, comme d'habitude, socialement et historiquement construits.
Oui, une dernière question.
Oui. Bonsoir, merci. Monsieur le député. Pourquoi l'Allemagne a peur de l'invasion polonaise ? Parce que l'Allemagne, ce que vous avez dit, c'est très juste. Du coup, l'Allemagne ne veut pas que la Pologne appartienne à la communauté européenne. Bon, ma question est, est-ce que c'est ma faute si il vaut mieux vieillir et mourir en voyant la mer ? C'est une chanson célèbre qui a dit ça. Ce qui me conduirait à dire que, contrairement à ce que vous avez dit, les gens seraient tentés d'aller vieillir plutôt vers le sud de l'Europe que vers le nord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de, par exemple, domicilier la Banque mondiale, le FMI, etc. en Europe plutôt que dans un pays où ils ont déjà de l'argent ? Ça pourrait aider le sud de l'Europe, le sud de la Méditerranée, à se rééquilibrer. Merci, monsieur le député.
Je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas ici en tant que député. Je suis ici en tant qu'universitaire.
Voilà.
Alors, bon, mais je vais vous le dire. Enfin, moi, je suis un chercheur. Je suis député par vraiment hasard. Par plus grand des hasards. Je pense que ça ne durera pas très longtemps. Passons. Je vais répondre à vos questions parce que ce ne sont pas des questions, vous savez, ce sont des questions aussi importantes. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites sur le Nord qui va vieillir au Sud. Je vais vous donner un chiffre. L'immigration la plus importante en Espagne aujourd'hui, c'est une immigration des pays du Nord. C'est tout à fait vrai. Et les pays du Nord vont prendre les Allemands, les Anglais, les Hollandais, peu de Français, hein, les Hollandais, etc., prennent leur retraite et s'installent en Espagne. Palma de Mallorca, par exemple, est une île qui maintenant est pratiquement entre les mains des, comment dirais-je, immigrés allemands et hollandais. C'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que ce ne sont pas des forces créatrices. Le problème, c'est que ce sont des forces qui dépensent, mais qui ne créent rien, qui permettent effectivement à ces pays de bénéficier de ces dépenses, mais elles ne créent pas de richesses, alors que l'immigration, notamment des jeunes, elle crée des richesses. Sur votre seconde question, je ne sais pas où est-ce qu'il faut domicilier la Banque mondiale. Je peux vous dire qu'elle est domiciliée entre... Aujourd'hui, elle est domiciliée dans deux endroits. Elle est domiciliée d'abord à New York, mais elle est surtout domiciliée à Genève. Elle est domiciliée à Genève pour une raison évidemment très très simple. C'est parce que, vous l'avez compris, non pas parce que c'est un pays riche où il y a des manipulations financières extraordinaires et des tas de choses, non, c'est parce que c'est un pays neutre, soi-disant. Et donc, la Banque mondiale n'appartenant à aucun pays en particulier, en étant en Suisse, veut appartenir, veut être la banque de tout le monde. C'est d'ailleurs pas le vrai problème, la Banque mondiale, aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est le Fonds monétaire international, c'est la dette, c'est l'OMC. Je n'ai pas pu traiter de ces questions. J'espère que je pourrai le faire la prochaine fois si vous m'invitez. Merci.